Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Puis en fait, on comprend que bah, c'est pas des chevaux qui sont enfermés, quoi. C'est des chevaux sauvages.
Il faut aller choper des chevaux.
Ouais.
Wow.
Donc ils vont les choper au lasso. Et ils te les ramènent. Et c'est pas des chevaux qui ont l'habitude d'être scellés.
Ah bah oui.
Les chevaux, ils disent, mais mon gars, tu montes pas sur mon dos.
Oh là là.
Tu t'en vas.
Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. Bienvenue, welcome sur le vol à destination de Tourista. Les chefs de cabine Maximuska et Marie De Breuer, qui ne se sont évidemment pas rencontrés ivre-morts à Phuket, sont à votre entière disposition pour vous faire passer un agréable voyage. Alors attention, PNC aux portes, désarmement des toboggans, et surtout évitez les glaçons dans le jus de tomate. Bon vol.
Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Tourista. Notre invitée du jour, la photographe et réalisatrice Lily Rowe, est plutôt badass. Il y a quelques années, elle a dit ciao à la vie de bureau, puis a fait le tour du monde pendant 2 ans en sac à dos. Sur le chemin, elle apprend la photo et depuis qu'elle est rentrée, elle multiplie les projets stylés et engagée. Et là, elle vient de passer l'été le plus incroyable que j'ai vu cette année sur mon Insta. Elle a commencé par une petite tournée en France avec son BMX et son appareil photo pour mettre en avant le sport extrême féminin. Ensuite, elle est allée shooter sur le nouveau projet du groupe Parallèle en Indonésie. Et puis après, je l'ai vu faire un road trip en Californie. Et au milieu de tout ça, elle a réalisé mon rêve d'enfant, faire le Burning Man. Voilà, donc je suis beaucoup trop jaloux, mais j'ai très hâte que Lily nous raconte son été fou et ses autres aventures. Mais juste avant, je dis bonjour à Marie qui revient elle aussi d'une méga aventure parce que c'est une incroyable amie.
C'est vrai. Non, bonjour mais... Maxime. Et ouais, j'ai fait Marseille-Paris en camion. Est-ce que j'avais déjà conduit un camion? Non. Est-ce que j'étais la seule à avoir le permis dans ce camion? Oui. Donc j'ai conduit toute seule de Marseille à Paris.
Mais pourquoi t'as fait ça?
Pour déménager une amie, Farah. Mais... qui avait besoin de quelqu'un qui a le permis, et je lui dis allez, let's go, je vais t'aider.
Non, mais franchement.
Je vais taper une petite nuit blanche de conduite pour toi. Elle m'en doit une belle.
Bon, Lily, qu'est-ce qui s'est passé là cet été? J'ai pas compris là.
Là, je dois parler.
Bah oui, bah, alors, bonjour Lily, je recommence.
Ah, quand même.
Ah,
voilà.
Bonjour Lily. Toi, t'as un petit van. Tu construis un petit van.
J'ai acheté un Kangoo. Enfin, mes parents m'ont aidé à acheter un Kangoo, parce qu'à 32 ans, forcément, t'as pas les moyens.
La vie d'artiste. T'as quitté la vie de bureau, tu l'as bien mérité. Hein.
Ouais, je l'ai mérité. J'ai mérité un beau Kangoo que j'ai aménagé avec mon papa. Enfin, je lui ai proposé de m'aider à l'aménager en petit van, et c'est chambé.
Bon, tu vas nous parler de tout ça. Tu peux t'excuser d'avance parce que apparemment t'es en méga jet lag. Madame fait, elle arrête pas de faire des projets là.
Non, c'est terrible. Ça fait 2 mois que je suis plus sur le fuseau horaire de la France, donc c'est un petit peu compliqué. Pardon, cette phrase est un peu bizarre ou énervante, je ne sais pas, vous choisissez.
en vrai, en plus
j'ai pris de quoi dormir, donc c'est la mélatonine, et je l'ai pris très tard dans la nuit, et donc pour être avec vous,
elle
est tôt, donc je suis en décalage.
T'es en full mélatoto. Voilà. Alors la mélatoto, moi je conseille ça à tous les gens qui partent voyager, qui veulent se remettre un peu vite sur le fuseau horaire. C'est l'hormone du dodo, c'est ça. Donc quand t'en prends normalement avant de te coucher, et là t'es bam. Bon, toi tu l'as pris à 4h du matin, ce qui fait que il va y avoir un petit décalage dans tes réponses. C'est pas grave, on va faire comme on peut. Je ferai du petit montage au cas où. Alors déjà, je voudrais, s'il te plaît, Lily, que tu te présentes en anglais, comme si tu étais dans une auberge de jeunesse au bout du monde avec plein de touristes autour de toi. Voilà, c'est un peu le premier exercice qu'on demande aux invités. Bon, ça va, t'as voyagé très loin, je pense que ton anglais est
pas mal. Oui, c'est pas tellement l'anglais, le problème c'est que je ferais jamais ça dans une auberge de jeunesse. Je suis plus genre à me planquer loin et surtout pas à parler aux gens. Hi, I'm Lily Rowe, I'm a French artist, I'm a French photographer. Photographeur, I love doing shitty art, shitty tattoo. Ah, very nice shitty tattoo here.
Elle est en train de nous montrer ses shitty tattoo.
C'est quoi?
C'est un petit cochon.
Il y a une
c'est
histoire un sur cochon. Le petit cochon.
Oui, il y a écrit friend not bacon. Déjà, c'est trop mignon.
Friend not bacon.
Et c'est quand j'habitais en Serbie, je suis tombée sur ce sortait de rêve et je de rave. pas de rêve.
De rêve parti.
C'était beau ça.
Ouais.
Ouais. Bref, et je suis tombée sur ce tag avec écrit Friend Not Bacon avec une petite tête de cochon et j'ai trouvé ça trop mignon. Et quand j'ai reçu ma machine à tatou, je l'ai fait. Donc il est vraiment shitty de ouf, mais c'est mon préféré.
Elle nous le remonte très loin on a compris que l'anglais, on va passer sur l'exercice, hein, mais parce que
tu es
pudique. Non, c'était juste pour voir un petit peu. En fait, c'est juste pour découvrir un petit peu la personnalité des gens en voyage, tu vois, parce que
bien, ta personnalité, c'est que
tu parles pas aux gens, voilà, et pas que à l'étranger.
Ça commence bien. Qu'est-ce qu'elle fout là ?
Bon, alors des tatouages, Lily a des tatouages, tu as des ça on en reviendra peut-être plus tard parce que tu n'as pas qu'un petit shitty tatou, j'en vois quelques-uns d'autres. Peut-être des liens avec le voyage, si tu voudras nous en parler, ce sera le moment plus tard, mais avant cela, on voudrait un autre petit exercice qui est que même pas un exercice, c'est juste ce qu'on demande à tous les invités au début, c'est est-ce que tu peux nous parler de ton rapport au voyage ?
Mon rapport au voyage, il date d'à peu près toujours, puisque ma maman travaillait chez Air France avant d'être romancière. Et du coup, j'ai très vite compris quand j'étais enfant que j'avais ce super pouvoir, grâce à elle, de pouvoir voyager assez fréquemment. Quand tu es enfant d'Air France, on appelle ça comme ça, tu as accès à un sorte de catalogue de voyages qui est, disons, calculé. Les parents payent en fonction de ce qu'ils gagnent, quoi. Donc, c'est vraiment... Ça permet aux enfants de pouvoir voyager, de pouvoir avoir accès à des choses fantastiques, ouais. Donc, même si les darons, ils se serrent un peu la ceinture et tout, tu peux faire des trucs vraiment chamés et c'est accessible, quoi. Ça ouvre l'esprit à l'aventure, au voyage, puisque j'ai pu faire des choses assez folles et j'ai pu ensuite choisir dans le catalogue. Donc, j'ai pu partir faire du surf, faire de la motocross quand j'étais ado, tu vois. Incroyable. Quand tu passes les 15 ans, tu peux choisir dans les voyages itinérants. Donc, tu voyages à l'étranger. Donc, je me suis retrouvée sur la muraille de Chine, tu vois. J'avais 16 ans, j'étais à San Francisco, en Afrique du Sud, avant même d'être majeure, quoi.
C'est incroyable.
Moi, c'était, j'avais le truc UM, donc j'en avais déjà parlé, moi.
C'est quoi UM ?
C'est quand tu voyages tout seul, si tes parents divorcés et que tu dois... Tu voyages beaucoup, donc c'est aussi à cause des parents, mais c'est pas le même délire.
Moi, je faisais des colos de poney, voilà.
C'est bien ça.
Ouais, après être avec des enfants que tu connais pas pendant... Enfin, moi j'ai eu des très bons souvenirs de colos, incroyables et tout. Et des colos un peu en mode... je me fais un peu vicose, je suis pas fan de l'ambiance et tout. Mais j'en ai fait des colos, putain, j'en faisais parfois deux par an. Pareil avec le travail de ma mère et tout.
Voilà. Non, c'est charmé.
Tu me trouves une petite anecdote à ce sujet-là, ça m'intéresse.
Toi t'intéresses les colos ?
Ouais, on sera un épisode colo.
On sera un épisode
colo. Donc là, on est dans l'épisode un peu privilégié du voyage, j'ai l'impression.
Ouais, non mais j'avais conscience que c'était vraiment un super pouvoir et je le voyais comme ça de ouf, quoi. Et en plus, c'est quelque chose que tu conserves parce que jusqu'à tes 26 ans, quand t'es enfant, donc Air France, t'as accès à un autre super pouvoir quand tu deviens majeur, c'est que du coup tu as accès à la GP Team, c'est-à-dire que du coup tu payes, c'est que tu payes uniquement les taxes aéroports, donc en fonction des endroits où tu vas, les taxes aéroports peuvent varier, mais par exemple, quand moi j'ai réalisé, le truc c'est que t'as le droit jusqu'à tes 26 ans, spoiler, j'ai plus de 26 ans, t'as le droit jusqu'à tes 26 ans, mais avec les études que tu fais et tout, t'es assez peu solvable avant cet âge-là, quoi. Donc quand moi j'ai vraiment pu me payer des voyages, il me restait un an. Donc j'ai vrillé et je suis partie, mais vraiment je faisais genre jusqu'à 3 longs courriers par mois.
Ah ouais, d'accord.
Donc, je faisais un aller-retour à Shanghai, tu vois. Ouais, mais c'était pas encore méga...
On n'était pas encore conscient de tout ça, quoi. Ouais.
Pas autant. Air France ne proposait pas de replanter des arbres, quoi.
Ah oui.
Maintenant, tu replantes des arbres. Plus dans cette démarche, ouais, j'essaye d'avancer sur ça.
Donc bon, alors on voit que le voyage coule dans tes veines, mais tu sais ce qui coule dans les veines de Marie ?
Non.
Quoi ? Le savoir. Elle nous apprend des choses à chaque fois avec un super quiz.
C'est vrai.
Et là, je ne sais pas ce que tu nous as prévu, mais j'ai très hâte.
Bah oui, c'est vrai qu'on nous a fait la remarque que c'était sympa qu'on apprenne des choses dans les quiz. C'est vrai que la fin de l'année dernière, j'étais plus sur un mood de faire des vannes. Là, on est sur le savoir et on va faire un quiz spécial Burning Man.
Oh, j'osais pas te demander. Oui, parce que moi, je veux absolument qu'on en parle après, parce que toi, tu l'as fait cet été, c'est ça ?
Ouais, c'est ça.
Celles et ceux qui ne savent pas, le Burning Man, c'est un rassemblement qui dure 9 jours dans le désert de Black Rock au Nevada, avec à peu près 70 000 visiteurs, voire un petit peu plus, qui se réunissent comme une communauté autour de l'art, de la créativité, de l'expression personnelle. Bref, c'est un délire. Et l'objectif, c'est de vivre selon certains principes, comme le don, le vivre dans le moment présent, etc. On en reparlera dans ce quiz. Mais voilà, c'est pour ceux qui ne savent pas ce qu'est le Burning Man.
Très bien.
J'explique. Et à la fin, il brûle un bonhomme en bois, Burning Man. Bref.
Très, très bien résumé.
Quelle est l'opinion, je suis admirative.
Le premier Burning Man a eu lieu en 1986, mais ne sera déplacé dans le Nevada qu'en 90, donc 4 ans plus tard. Où ont-ils cramé le premier mannequin géant pour ce premier Burning Man, à votre avis ?
Ah, alors, je l'ai su, je m'en souviens plus.
C'est aux États-Unis.
C'est en Californie, peut-être ?
C'est tout à fait en Californie. Est-ce que tu as un truc un peu plus précis ?
Il me semble que ça a commencé sur les plages, c'était des communautés hippies au-dessus de San Francisco ou quelque chose comme ça.
C'est exactement ça, à San Francisco, sur la plage de Baker Beach, en face du Golden State Bridge. Voilà.
C'était en quelle année le premier ?
C'était en 86.
86, d'accord.
Mais d'ailleurs, le Burning Man maintenant, le truc en bois qui brûle, mesure plus de 30 mètres de haut. Mais combien mesurait le premier ?
Oh ! 4 mètres. Attends. Est-ce qu'on en a... Attends, 4 mètres, c'est peut-être beaucoup. Moi, je dirais...
2 mètres.
3 mètres. Moi, je dis 3 mètres.
Eh bien, c'est pile entre les deux, car c'est 2 mètres 40.
Oh !
Mais c'est quand même Lily qui est un peu plus près. Ouais. 2 mètres 40, c'est tout minuscule.
Ouais.
Ça fait vraiment on crame un humain.
Bah, ça fait genre... Bah, non, mais...
Alors, comme je l'expliquais avant, il y a 10 grands principes de vie au sein du Burning Man pendant ces 9 jours. Je peux pas tous les citer, mais lequel de ces principes n'est pas dans les 10 officiels ? 1. La démarchandisation. Le consentement. L'engagement de ne pas laisser de traces de son passage. Et l'effort commun. Sur ces 4-là, il y en a un qui n'y est pas.
Putain, ils ont pas mis le consentement ?
Comment ?
Je crois... Ouais.
Répète le premier.
Le premier, c'est la démarchandisation.
Est-ce que à mon avis, je connais Marie et elle va nous parler de consentement parce qu'ils le mettent pas dans la liste alors que
c'est qui devrait le mettre.
Le consentement n'est pas dans les 10 officiels, mais il est considéré aujourd'hui comme un peu le 11e principe. Parce que,
ah, voilà, ils l'ont pas rajouté officiellement
Il s'est resté 10 dans les trucs officiels, et donc il n'y a pas le consentement, c'est vrai que c'est étonnant.
C'est étonnant parce que, moi, là, cet été, je suis allé dans pas mal de festivals de musique et tout ça, et vraiment, ça communique vachement dessus de plus en plus,
ouais.
T'as des endroits, des safe places, etc., quand tu vas dans les chiottes des garçons, ça te met des grosses phrases en mode non c'est non, etc., c'est étonnant que...
Peut-être que là, dans la culture française, il y a plus de gens qui font les choses quand même alors qu'on leur dit non.
Ouais, peut-être, bon. Mais, en tout cas, je pense que c'est juste déjà en 86, le principe du consentement n'était pas forcément officiellement dans une liste, mais que en fait, il y est quand même au Burning Man. C'est juste, c'est pas ce qui est bizarre, c'est que c'est pas dans les.
Ils n'en ont pas rajouté. Et ils n'en ont pas rajouté depuis. Ils n'en ont pas rajouté depuis les 10 du 86.
Non.
D'accord.
Non.
Mais
après, je suppose qu'il y a des principes. Après, il y a des principes, tu vois, genre vivre l'instant présent, qui sont assez larges, tu vois.
J'ai vu 2-3 trucs qui disaient que maintenant, c'est plus comme avant le Burning Man, parce que maintenant, t'as les milliardaires qui viennent et tout, et puis t'as quand même des trucs un petit peu avec des castes ou des trucs comme ça. Bon, bref, tu nous diras ton expérience tout à l'heure, j'ai trop hâte.
Je sais pas si t'as hâte.
Ah, oh là là, c'était pas une bonne expérience. Oh non.
Ah, j'ai trop hâte de savoir.
Ah, bon.
Alors, il y a tout un vocabulaire au Burning Man, et savez-vous ce qu'est un MOOP? M-O-O-P.
Oui, c'est en fait, c'est quelque chose qui n'appartient pas à la playa. Donc, c'est une ordure, comment on dit ? Waouh !
C'est ça.
Garbage.
Trash.
Ouais, c'est quelque chose... Ça peut être, par exemple, des cheveux.
Ouais.
Donc, en fait, il faut que tu le ramasses avant de partir. Alors, j'ai passé des heures sous le soleil de plomb à ramasser des cheveux, mais de façon absolument volontaire. Et...
Parce que la playa, c'est le lieu où se trouve le Burning Man.
En gros, c'est le Burning Man se sort de terre et construit au milieu du désert, dans le Nevada, sur un lac alcalin, ce qui fait que c'est très, 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 très sec, très, très aride, en plus du fait que ce soit un désert. L'idée, c'est qu'il n'y a rien d'autre que de la poussière. Donc, quand tu pars, tu reprends tout ce qui n'est pas poussière.
Et du coup, il faut évidemment les déchets, mais il y a aussi... Donc, MOOP, c'est matter out of place. Et donc, effectivement, ça, c'est... Donc, les cheveux, je ne savais pas, mais T'as pas le droit genre de renverser de l'eau par terre, tu vois. Oh. Parce que c'est un truc qui n'appartient pas à l'endroit.
Non, mais exact. Moi, je peux pas aller au Burning Man, moi, avec tous mes cheveux que je perds, là. Franchement, ils vont me détester, quoi. Bon, de toute manière, apparemment, t'as une mauvaise expérience, donc je veux plus aller au Burning Man. Mais moi, j'ai failli
j'ai pas dit que j'avais une mauvaise expérience, mais...
Tu vas nous expliquer après. C'est bien, ça fait un bon teaser pour la suite. Nous, dis pas tout de suite.
Ah là, il me fallait quand même une vanne, un peu, pour la dernière question.
Mais dis pas que c'est une vanne, Marie. Elle nous vend la mèche.
Qui sont les Shirtcockers? 1. Une bande de burners qui se balade avec des t-shirts avec un pénis dessiné. 2. Une bande de burners qui se balade en t-shirt avec le pénis à l'air libre. 3. Une bande de burners qui se balade déguisée en pénis. Les Shirtcockers.
Je dirais la 2.
Ouais, la 2 qui balade avec la zigalère.
Et oui, c'est ça. Ils se mettent la zigalère, mais ils gardent un t-shirt. Ils sont un peu pudiques des tétés.
Voilà, ouais, c'est marrant. Moi, je me souviens d'une des premières images que j'ai eues, c'était de voir un mec à la tub à l'air passer en one wheel avec des grosses lunettes. Donc, c'est vraiment derrière le mec là. En skate. Limite, non, faut pas que j'ai skate, je vais me faire taper. En truc électrique à une roue, comme ça, la tub à l'air. Ouais. Franchement, ouais. Il était au frais, il était bien.
Bah, s'il fait chaud dans le désert, c'est vrai que
le plus simple appareil. Ah, putain, les coups de soleil, j'avais pas pensé.
Ah, les coups de soleil à la tub.
L'air sur les testicules, incroyable. Moment. Moi, j'ai découvert ça en faisant un truc nudiste en Allemagne.
Tu veux nous en parler ?
Je dois dire que ce garçon a dû prendre un vrai plaisir sur son skate.
Ah, il avait l'air de kiffer, ouais. Non !
Parce que sur son solo wheel. Sur son solo wheel. Bref, pardon, mais alors oui, mais alors oui.
Donc l'air frais sur les testicules, oui. Alors...
Allez, on enchaîne, pardon, désolé.
C'est quand même une sacrée anecdote, ça, Maxime, tu peux nous en parler un petit peu?
Ah, ça change complètement. Non, bah, j'étais parti avec mon plus vieil ami Théo. On était allé en Allemagne. Et pour faire. Moi, je voulais tester le Berghain et tout ça, je suis rentré pas lui, enfin bref, pour en revenir à mes testicules, on est allé faire les spas, et là-bas, les spas, ils sont. Tu peux te mettre tout nu. Et en gros, donc t'avais plusieurs endroits, des hammams, sauna et tout, et puis à un moment, il y avait un petit espace extérieur, on s'est mis sur les transats, et il y avait quelques personnes, il y avait 3-4 personnes, mais c'était très grand et tout, donc t'étais pas très proche des gens et tout, et chacun était un peu comme il voulait, et c'était vraiment très détente. Et moi j'étais en mode, mais vas-y, je vis l'expérience à fond, on était en short quoi, et je fais, allez, j'enlève mon short et tout, et Théo, je voyais, il était trop gêné et tout, il voulait pas, et puis en fait, moi j'arrêtais pas de dire, putain, mais c'est trop bien, et puis je sentais vraiment le soleil vraiment partout sur mon corps, et vraiment, je sentais vraiment une différence, je me dis, oh, mais je suis tellement au top de la liberté, quoi. Et là, et Théo, il était là, un peu tout pudique, tout gêné, et au bout de 5 minutes, il enlève son short et tout, il se met à poil, j'ai genre l'air de rien et tout, et du coup,
mais c'est comme se baigner à poil, quoi, ouais. c'est plus agréable, alors que c'est vrai que les maillots, c'est pas non plus... une des fringues, tu vois. C'est tellement agréable, là, d'avoir l'eau dans le...
C'est ouais. Naturel, quoi.
On fera un épisode dans un camp nudiste, Marie, si tu veux.
Ah ouais, de ouf.
On fera ça ?
Grave.
Allez.
Mais tellement on sera peut-être obligé d'être à poil.
Moi, ça, je serais pas obligé. Hein. Moi, si je pouvais vivre à poil, je serais au top. Enfin, bref, bon, hey,
non, mais
on n'est pas là.
On va se voir à poil.
Ça y est, c'est vrai. Je pense pas à ça au début. Salut. Je suis à poil, mais les autres aussi me voient et sont à poil. Ah ouais, effectivement.
Est-ce que ce quiz est fini, Marie ?
Oui, il est fini.
Oh là merci là. Marie pour ce quiz.
Mais de rien, bon. On m'a appris des choses.
Bon, alors tu vas nous parler du Burning Man, mais un peu plus tard, parce qu'avant cela, j'aimerais quand même que tu nous parles d'une expérience incroyable que tu as vécue. Un jour, tu es parti pour une vie nomade. Parce que moi, je connais un petit peu ta vie et je connais cette vie. Je ne sais pas si Marie est au courant.
Non, moi, je sais pas.
Mais j'aimerais bien que tu nous dises le début de tout ça. Comment ça a commencé et l'expérience que tu as vécue, ce que ça t'a apporté et...
Bah, c'est la suite en fait d'Air France, quoi. C'est vraiment ce truc qui est arrivé à ce moment-là. Quand tu as cette possibilité de voyager partout dans le monde et que cette possibilité-là ensuite t'est enlevée, parce qu'après, en fait, tu découvres le vrai prix du billet d'avion.
Ouais.
Et là, tu pleures. Là, tu te dis, soit je pars vers la porte de la dépression, soit je trouve une autre option. Et ça rime. Et du coup, moi j'ai fait un peu les deux.
Tu bossais où? Parce que pendant deux ans, avant tu bossais dans quoi?
J'ai travaillé dans un grand groupe international pendant 3 ans. Et c'était la fin de ces fameux billets magiques. Et je voyageais énormément à ce moment-là. J'avais pour objectif de faire le maximum de pays tout en travaillant. Donc j'ai fait une quinzaine de pays en l'espace de 10 mois. que c'était assez extraordinaire. Je rencontrais d'ailleurs des femmes dans chacun des pays où j'allais. Je les interviewais sur les droits des femmes dans leur pays et les avancées. C'était incroyable. J'ai fait des rencontres vraiment folles. Autant j'aime pas vraiment parler aux gens, autant ça, c'était vraiment fou, quoi. Et suite à ça, fin de la magie. Et du coup, retour à la réalité. Et je me dis, comment je peux faire pour vivre du voyage, quoi. Pour faire que le voyage soit ma vie. Et c'est compliqué. C'était à l'époque où le digital commençait à intégrer les entreprises et tout. C'était mon job. Et puis, c'était le tout début du digital nomadisme et tout. Et j'ai rencontré quelqu'un à l'époque et on discutait... Un peu ivre un soir dans Paris, et il me dit ah, j'ai un pote qui habite en Australie et tout. Je fais ouais, viens, on y va. On me dit ah ouais et tout. Je dis non, je déconne pas, viens, on va vivre là-bas. Et lui, bah, il m'a dit oui, quoi. Le con.
Trop bien.
Du coup, on est parti, on a tout claqué. On est parti, d'abord, on a pris le train, parce que moi j'avais toujours voulu prendre le transsibérien, donc on a pris le train. De Nice, on a traversé toute l'Europe de l'Est en train pendant plusieurs jours. Ensuite, on a pris le trans-mongolien. Donc, en fait, c'est comme le trans-sibérien, mais il ne s'arrête pas en Russie, il descend jusqu'en Mongolie, parce que c'était un de mes rêves d'enfant d'aller en Mongolie. Donc, on a passé un peu moins de 2 mois en Mongolie. Puis, on a fait toute l'Asie du Sud-Est. Bon, non, une partie, j'abuse, toute l'Asie. Et ensuite, on est parti en Australie. Puis après, on est parti aux États-Unis. Au Canada, et puis on est rentré, on a fait l'Europe de l'Est en van, et on a vécu en Serbie, et ensuite je suis rentrée en France.
Et alors, wow. c'est un méga voyage.
Et ça a duré 2 ans.
Et donc tu mêlais découverte, voyage, plus tu travailles en même temps, parce que comment tu finances tout ça, comment ça s'est passé?
Tu mets de l'argent de côté, ouais. Tu mets de l'argent de côté, et puis ensuite, j'avais pas envie de me dire, j'ai fait toutes ces études supérieures, j'ai mis toute cette énergie pour essayer d'avoir une carrière et blabla et tout, pour en fait que tout, tu vois, disparaisse comme ça, sur un coup de tête. J'avais envie que ce soit un peu construit, un peu réfléchi. Donc on a cofondé une agence d'art digital. À l'époque, c'était un peu innovant, lol. Et puis, et on a commencé à faire du contenu pour les marques sur la route. Mais vraiment, c'était du... un coup de poker, quoi. Mmh. Et putain, ça a marché. Sur quelques trucs, ça nous a permis de payer certains trucs. Et surtout, bah, du coup, j'ai appris la photo et la vidéo comme ça, quoi.
Trop bien.
Putain, une précurseuse.
Ouais. Ouais. Comment on prépare comment vous êtes préparé à partir?
Tu prépares pas, ma gueule. Tu fonces droit dans le mur.
Ça a hurlé.
Oh, pardon.
Non, c'est très bien.
Pardon, vous saviez que ça allait durer 2 ans ou pas du tout?
Moi, je voulais pas rentrer.
Ok.
Donc, vraiment, tu prépares pas. C'est juste... c'est comme si t'étais devant une falaise et qu'il y avait la mer en dessous, tu vois, et que tu sautais et...
Trop bien.
Et que t'as le vertige.
Mon angoisse absolue. Vraiment, moi, de... Non, mais... je me dis, si je dois partir, il y a tout dans ma tête. Il y a, ok, où est-ce que je mets mon canapé? J'y tiens, mon canapé, je veux pas qu'il disparaisse. Genre, ah ouais. Ça serait surpréparé si je devais partir en voyage pendant 2 ans.
Tu savais que c'était 2 ans ou alors tu remettais une pièce dans la machine à chaque fois en disant bon, alors on a fini notre visa, on a fini notre machin.
Ouais, bah, pardon, déjà il y a le visa de 1 an en Australie. Mais c'est sûr que moi j'ai rendu mon appart. Déjà, j'aime pas accumuler les choses. J'essaye de régulièrement donner, faire le vide, etc. J'ai assez peu de choses auxquelles je tiens. Je ne mets pas de valeur dans les objets. Mais c'est tellement excitant, moi, j'adore ça. Mais j'ai peut-être un petit problème à ce niveau-là. Mais le truc de se dire que ta vie, elle tient dans un backpack de 50 litres.
Ouais, ouais.
C'est incroyable. C'est grisant, quoi. C'est un truc...
Ouais.
Ouais, moi j'adore.
Tu l'as encore ton backpack de tes 2 ans de tour du monde?
Oh non, il y a des puces de lit et mon gars il a fait le tour du monde, il est plus là. D'ailleurs c'était vraiment le truc d'amatrice de ouf, quoi, parce que j'avais pris un truc, tu vois, un peu stylé, genre vintage, un peu militaire et tout. Il m'a scié les épaules, ma gueule, parce qu'en plus tu prends trop de poids, quoi, parce que tu prends des livres, trucs à la con, mais...
Si vous partez, peut-être prenez un truc qui tient un peu bien les épaules. Moi aussi, hein, mon backpack, ouais. il est allé en Asie, il est allé en Amérique du Sud, il va en Europe, etc. Mais c'est vraiment pas un truc stylé. Il me défonce. les épaules. North Face, vous me devez de l'oseille.
Ah, c'était un North Face en plus.
Ouais, mais pas genre, je sais pas comment dire, mais au niveau des épaules.
Mais c'est un sac en
bandoulière. Non, mais c'est un sac à dos, mais il y a pas de truc genre de voilà. Structure un peu dure pour que ça soit. Enfin, c'est vraiment tout mou.
Ouais, ouais. Ah ouais.
Et du coup, c'est enfin tout mou. C'est ça reste un, tu vois, c'est imperméable et tout. Mais je veux dire, il y a pas genre un truc pour la taille ou des trucs comme ça. Il y a que dalle, donc c'est juste très lourd sur les épaules et voilà. Donc c'est pas fait vraiment pour autant voyager, c'est plus des petits voyages peut-être.
Et pourquoi t'as fait plutôt... Parce que moi, je, comme un con, je fais Décathlon parce que je me dis que c'est pas trop cher et...
Si tu veux vraiment l'anecdote, il y a près de chez ma mère une sorte de centre commercial avec que des marques, ouais. Mais qui vendent les trucs des autres années, tu sais. Et du coup, t'as un truc North Face, mais deux fois moins cher que...
Du déstockage.
Voilà, des trucs okay. De déstockage.
Un outlet.
C'est dans 7-8, les gars. Okay. Allez-y, parce que vraiment, il n'y a personne qui va, c'est vide. Mmh. Et bref, je sais que je vais partir, je suis là, il y a North Face, et il est trop beau, le sac, il est jaune, vert et bleu, et moi, je suis en mode, ouais, trop bien. Et du coup, voilà, j'ai pas réfléchi, je l'ai pris.
Ça m'étonne de te voir en North Face avec tes... Je vais couper ça, mais... Avec tes clopes roulées, là, et que se prend le North Face, non, mais...
C'est génial, non, mais ça va ensemble, en vrai.
Je pense que c'est maman qui a régalé hein, pour Noël. Hein.
Eh ben merci Alice.
Merci Alice, elle fume pas de rouler Alice. Hein. Elle est plutôt bien lotie.
Avant qu'on passe à la suite, comment ça t'a changé cette expérience? Qu'est-ce que ça t'a appris?
Je pense que c'est quelque chose, c'est le genre de voyage que tu passes ta vie à processer. Donc c'est compliqué de le raconter comme ça. Mais moi je pense que ce qui m'a le plus impacté, ça a été de vivre... au plus proche de la rue, donc de vivre dans une voiture pendant assez longtemps dans différents pays. C'était vraiment de vivre de dormir sur des c'est tellement niveau ça.
Dormir sur des
parkings. En fait, il y a un truc aux États-Unis qui s'appelle Walmart.
Ouais.
Et Walmart parking, c'est vraiment, t'as une communauté de gens qui parce que c'est des parkings qui sont ouverts à tout le monde. Et le matin, Quand les magasins s'ouvrent, t'as quand même accès à des toilettes. Et ça me fait juste penser à quel point le système français est terrible sur ça. Pour les SDF notamment, il y a tellement peu accès à des choses de base, comme pouvoir faire pipi, quoi. Bon, putain, je sais pas, je suis partie beaucoup trop loin.
Non, mais
Mais du coup, oui, en tout cas, en Australie et aux États-Unis, ces services-là sont très accessibles. Par exemple, en Australie, au fin fond du pays, tu peux avoir accès à des douches chaudes, gratuitement. Il y a dans énormément de toilettes accessibles, et c'est quelque chose qui est clairement pas le cas en France. Et c'est dommage parce que c'est déshumanisant. C'est un peu dipos ce que je dis, mais c'est vrai que quand tu as vécu... dans une voiture et tout. Alors après, moi, c'était un choix, hein, voilà. Mais tu ressens ces choses-là de pas avoir de confort, de pas avoir régulièrement accès à des choses de base, comme pouvoir prendre une douche, etc. Et c'est vrai que tu te dis à quel point on manque de structures comme ça en France, alors que c'est possible dans notre pays, quoi. Mmh. Tu voulais une anecdote, c'est ça?
Bah, si t'as, ouais, t'as une anecdote. Allez, une petite anecdote.
J'adore. Sur
une petite anecdote, ouais. C'était en Mongolie.
Très bien. Après le transmongolien.
Après le transmongolien, ouais, déjà tu passes plusieurs jours, vraiment plusieurs jours dans le train. Et on avait fait donc la capitale, Oulan-Bator. Et ensuite, on voulait vraiment voir la nature, quoi. Et il y a des lacs assez incroyables en Mongolie, notamment le lac Kovskol, qui est un des lacs les plus clairs au monde. Qui est le plus grand lac d'eau douce de Mongolie, qui est issu de le même mouvement de plaques tectoniques que le lac Baïkal en Russie. Donc c'est plutôt au nord de la Mongolie. Et donc moi j'avais très envie de marcher et de... Bah, l'idée c'était vraiment d'être avec son backpack et de marcher, etc. En temps. Le problème c'est que c'est assez... À l'époque c'était assez compliqué d'accès. Aujourd'hui je ne sais pas comment... Si c'est toujours le cas. Mais on a fait plusieurs dizaines d'heures de bus pour accéder à un petit village. Puis ensuite, on a dormi dans une auberge. D'ailleurs, là-bas, les plats végétariens sont incroyables. Ouais, ça aussi en France, mais qu'est-ce qu'on est en retard. J'adore la France, j'adore mon pays, mais c'est vrai que... Waouh. Ouais. C'est un pays où tu te dis, quand même, ils mangent beaucoup de viande et tout. Et tout le temps, des plats végétariens.
Parce que religieusement, il y a aussi beaucoup de gens qui... qui mangent pas de viande pour des raisons religieuses, non, de manière générale en Asie. Je crois que c'est pour ça que la bouffe végé est... même les je sais pas dans les lignes d'avion asiatiques, ouais. Tu peux choisir vegan, machin. Bon bref.
Non mais carrément, ça va sûrement être une des raisons, c'est sûr. Mais du coup donc on est dans cette auberge et on veut se rendre au lac qui est à vraiment plusieurs dizaines de kilomètres plus loin. Et comme on partait pour marcher, il fallait qu'on nous aide à aller jusqu'à ce lac-là. Et donc on demande et donc les locaux nous répondent que la seule possibilité d'y aller, parce qu'il n'y a pas de route, c'est d'y aller en cheval.
Ok.
Et donc on fait, ok, why not, très bien. Donc le lendemain matin, très tôt, on se lève et donc on va, donc c'était une tribu nomade. Et donc on attend, et puis au bout d'un moment, on se dit, putain, ça fait quand même un moment. Et puis ils ne reviennent pas, et puis ils ne parlent pas anglais, tu vois. Donc on essaye de se comprendre et tout ça, et puis en fait on comprend que c'est pas des chevaux qui sont enfermés, quoi, c'est des chevaux sauvages.
Il faut aller choper des chevaux.
Ouais.
Wow.
Donc en fait, à la naissance des chevaux, il est marque au fer, et c'est comme ça qu'ils appartiennent à une tribu, mais ils sont en liberté totale. Donc ils vont les choper au lasso, et ils te les ramènent, et c'est pas des chevaux qui ont l'habitude d'être scellés.
Ah bah oui.
Les chevaux, ils disent, mais mon gars, tu montes pas sur mon dos.
Oh là là.
Tu t'en vas. Donc... Évidemment, on nous demande qui est-ce qui est plus à l'aise, tu vois, sur le cheval et tout. Moi, j'ai fait un peu de poney quand j'étais gamine. Pourquoi j'ai dit oui ? Je sais pas. Je me tape le Jupiter, méga vénère, le poney, machin. Super. Donc, ils arrivent, ils finissent par sceller les chevaux, etc. Il faut savoir qu'on a nos bagages avec nous, tu vois, donc notre sac à dos et tout. Moi, la hippie à deux balles qui a pris son guitalélé parce qu'elle sait faire trois accords, génial. Je suis super contente de l'avoir sur le dos en plus. Et donc, allez, c'est parti. Donc, ah oui, il faut savoir que si les chevaux, globalement, les chevaux font ça, mais les chevaux sauvages, d'autant plus. En fait, ils vont gonfler le ventre quand tu essaies de le sceller parce qu'ils ne veulent pas être scellés, tu vois.
Ouais, ouais.
Donc, en fait, même si tu serres, il y a un moment donné où quand ils commencent à marcher, ça se desserre et que tu as la selle qui commence à faire comme ça. Eux, ils montrent à cru et tout. Enfin, c'est un délire. Bref, le cheval, tu montes dessus. Déjà, de base, un cheval, il veut pas que tu lui montes dessus. Mais là, il veut vraiment pas que tu lui montes dessus.
Ouais.
Donc, ça cabre et ça machin et ça truc. Moi, je commence à bader parce que je me suis déjà trouvée dans la carrière avec le cheval qui part, tu vois, en couille et tout. Je peux te dire que quand tu tombes d'un cheval, c'est pas ouf, quoi. Bref, on monte dessus, tout va bien. Il faut savoir qu'il y avait 4 heures, hein. 4 heures de randonnée à dos de cheval.
Qui cabre, en plus.
Voilà, donc... C'est parti et tout. Et puis d'un coup, en fait, il y a ma guitare qui se défait de son étui sans que je m'en rende compte.
Le yuku.
Ouais.
Oh non.
Et qui glisse sur le flanc arrière, le flanc, tout court. Ouais. Le flanc avant, le flanc arrière. Bon, bref. Le cheval.
Le cul.
Sur le cul du cheval.
Le cucu du cheval.
Le cucu du cheval qui n'a pas du tout aimé qu'il y a un truc qui lui touche le cucu. Donc le cheval. Il s'est galop.
Oh non. Donc, et toi dessus ?
Et moi dessus.
Oh là là.
Donc tous les autres chevaux, ils partent dans tous les sens et tout. Et donc le cheval trace. Et donc là, je ne sais pas comment, mais c'est l'instinct de conservation, de survie. Je me suis rappelé de comment mettre au galop, tu vois. Et donc j'étais comme ça. Et putain, c'était une espèce d'étendue, mais immense. Mais c'était un terrain de crosse, le bordel. Le cheval était comme ça. C'était l'enfer. Et j'ai fini par le faire arrêter. Et sans tomber, quoi.
Oh, mais là, t'as dû avoir l'adrénaline puissance 2000, mais quoi.
Horrible, horrible. Horrible. Et du coup, tu descends, donc tu te calmes un peu et tout. Ils sont tombés, tout le monde est tombé et tout. Donc voilà. Et puis après, tu pars pour 4 heures avec Jupiter le Vénère, les sentiers escarpés comme ça. T'avais le sabot du cheval qui glissait, il y avait le vide avec le lac en dessous. Mais... Rien que d'y reparler, j'ai le palpitant, quoi.
Ah putain.
Bah, moi, j'y serais peut-être pas allé, je crois. Hein. Pourtant,
moi non plus.
Je suis yes man sur pas mal de trucs, mais.
Ouais, le côté... Moi, en fait, je pense que j'aurais vu que les chevaux, c'est pas des chevaux...
Bah ouais.
J'aurais fait... Oh. En même temps, tu sais, t'es arrivé jusque-là. Donc, tu te dis, parce que tu peux pas y aller à pied, genre. Ouais, c'est 8 heures.
Et puis, enfin...
Tu suis les locaux aussi. Ils t'ont dit, c'est comme ça que ça se passe, comme ça que ça se passe.
Je vais faire du cheval sauvage avec... Enfin, tu vois, dans une tribu de nomades mongoles. Je dis, oui, en fait. Waouh, tu vois.
Eh ben, ça, c'est l'aventure, ça.
Ah putain, ça c'est l'aventure ouais. même, avec un grand A.
Oui, Marie. Et est-ce que tu nous parlerais pas de l'Indonésie avec un grand I maintenant? Parce que j'ai vu des images sur ton Instagram, t'étais avec des tribus pareilles, qui faisaient des cérémonies, à un moment il y avait un volcan. Bref, explique-nous, je suis jaloux.
Alors, les cérémonies, c'était à Fidji.
Ah oui, sur les îles, oui, elle était aussi à Fidji.
Comme dans Koh-Lanta.
T'as suivi un groupe, c'est ça?
Oui. En fait, cet été, j'ai travaillé pour Classified Productions. C'est les parallèles, c'est deux frères musiciens et DJ qui ont monté ça et qui ont un projet qui est absolument exceptionnel, qui est une sorte de voyage musical. Donc, leur concept, c'est de créer une musique électronique à partir des sons environnants.
Incroyable.
Du coup, ils vont dans des endroits insolites ou dans des lieux, dans des pays, et prennent les sons environnants et en créent une musique. Et leur concept donc s'appelle A Day In, et ils vont dans des endroits, dans des pays, etc. Et là, c'était la chaîne d'hôtels du Marriott. Je ne sais pas si je peux dire ça.
Oui, bien sûr. Bien sûr.
Et donc, l'objectif, c'était de faire des vidéos avec des musiques qui créaient de toutes pièces dans les pays où les hôtels sont. Donc on a 5 vidéos à faire. Moi, je m'occupe de la photo, majoritairement. Je les aide un petit peu sur la prod aussi. Et donc, on est parti cet été sur l'île de Java, à Fidji. Et ensuite, on va partir dans 3 semaines au Japon, en Inde et en Thaïlande.
Non, mais c'est quoi ce bon plan-là?
C'est intense de malade.
Ah oui, oui, oui. Du coup,
on fait 3 semaines de tournage.
Ouais, 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 c'est du
plus
c'est
à chaque
boulot,
fois,
quoi.
Réfléchir. Mais c'est passionnant parce qu'il faut réfléchir à la prise vidéo, photo et au son. Tu vois, ça, ouais. C'est génial. Ils sont là avec leurs énormes micros, on a l'impression qu'on part en expédition, tu vois, c'est chambé. Et l'idée, c'est donc de rencontrer des musiciens, musiciennes locaux. Donc de faire vivre les traditions et de capturer les sons les plus traditionnels, les plus
authentiques,
je trouve pas le terme, mais de capter les sons locaux, quoi, avec les instruments traditionnels, etc. Et c'est vrai qu'on s'est retrouvé auprès de tribus dans certains endroits assez reculés. À Fidji, par exemple, c'était absolument incroyable. On a fait la cérémonie du kava où on se retrouve vraiment accueilli, parce que c'est vrai que la musique, c'est quelque chose, alors ça va être ultra bateau ce que je veux dire, mais c'est quelque chose qui relie toutes les cultures, quoi.
C'est quoi la cérémonie du kava?
Le kava, c'est une racine,
c'est l'élixir du Pacifique d'après Google.
Google est notre ami.
C'est utilisé depuis des millénaires par les peuples du Pacifique occidental au sein de leur vie religieuse, politique et culturelle. La boisson est offerte en signe d'amitié, Lily. Parce qu'elle est en jet lag, alors je l'aide un petit coup. Et donc, on t'a offert cette boisson.
C'est arrogance.
On t'a offert cette boisson par amitié.
Par accueil, pour nous accueillir.
Ah, c'est trop bien.
Donc, en fait, oui, on allait.
De racines.
De plâtre.
De smectar.
C'est un peu un coup de plâtre.
T'es obligé de le finir, par contre, sinon,
ouais,
sinon
mais c'est
plus l'amitié,
c'est
quoi.
Cette appréhension de se dire ça va être nécessairement un goût auquel je suis pas habituée. Mais c'est un peu, c'est des rituels qui sont relativement fréquents un peu partout dans le monde, en Mongolie également, quand tu rentres dans une yourte et que tu es accueilli par une tribu nomade, on t'offre aussi une boisson qui est il me semble du lait fermenté de cheval mélangé à une sorte de pierre.
Okay.
Et ça, c'est des goûts que t'as pas l'habitude. Et en plus, comme t'as l'appréhension, t'as le visage qui se crispe un petit peu, non, je veux faire bonne figure, je veux que ça se passe bien et tout. Mais du coup, le kava, c'était un petit peu similaire. Mais
en Grèce, donc, je vais régulièrement. Et pour le coup, je suis
On t'a offert du tzatziki pour t'accueillir.
Du quoi, du coupon avec du yaourt? Vous êtes
des malades,
quoi. T'as trop d'ail dans ça.
Allez, cliché land, c'est parti. Bon, ouais.
Non, mais j'ai l'habitude de la bouffe grecque. Et c'est à l'époque où je mangeais encore du poisson, etc. Et donc, je suis sur une petite île, machin. Et il y a des trucs que j'ai jamais vus.
Ouais.
Des espèces de trucs orange, mais que je capte que ça vient de la mer. Mais je me dis, bon, bah, c'est un peu comme des trucs Saint-Jacques. Enfin, c'est orange, ça. Je m'en mets un dans le gosier parce qu'on me dit, Marie, il faut absolument que tu testes ça. C'est vraiment un truc rare et tout. C'est pas de l'oursin, hein, je vois les gens venir. C'est pas ça. Vraiment, je sais pas ce que c'est. Je le mets dans ma bouche et là, je fais. Oh, c'est impossible à avaler, c'est dégueulasse. Donc là, j'imite pour les gens qui voient pas, mais j'essaie d'imiter. Je suis vraiment en sueur froide. Tout le monde me dit, mais tu sais, c'est très rare de pêcher ce truc-là et tout. Il faut vraiment que tu le manges. Et un truc, mais tellement fort et tellement... Tu sais pas ce que c'est, quoi. J'étais vraiment, mais c'est quoi? C'est pas cuit, qu'est-ce que c'est? Je le mange et je glisse à ma pote Marina qui est à ma gauche. Je lui dis, fais-moi confiance. Ne mange pas ça. Elle m'a dit, ok. Je ne testerai même pas. J'étais là vraiment.
Et ça avait quoi comme goût? C'était amer, c'était.
C'était amer et acide et cru et surtout super fort en même temps. Et j'étais mais c'est pas possible. Vous mentez tous là à croire que vous
et
aimez manger
quoi,
ça. Et ben je sais toujours pas.
Ah ouais.
C'était un truc de la mer. Je pense que c'était une partie d'un poisson peut-être, mais.
Pas la meilleure.
Mais vraiment pas la meilleure. Puis c'était un peu visqueux et tout.
Aucun respect, Marie.
Ouais,
aucun respect.
Désolé.
Moi, je suis là. Si tu, j'ai mes petits bonbons là, t'as intérêt à les manger. Hein. Bon, bah, apparemment, tu vas nous dégoûter du Burning Man. Alors, comment ça s'est.
Mais non,
comment
ça s'est... J'espérais que vous ne posiez pas la question.
Ah non, non, quand même, il faut qu'on en parle.
Ouais,
c'est...
Oui. Non, alors.
À moins que tu veuilles pas en parler. Hein.
Bien sûr que si. Bien sûr que si, faut assumer. Non, ce qui est compliqué, c'est que tu te retrouves... Enfin, moi, j'étais extrêmement excitée à l'idée d'y aller. Ça faisait longtemps que je voulais le faire. Il y a vraiment ce côté communauté, vrai hippie, ce côté un petit peu survival et tout. Et puis, il y a tellement de secrets et que ouais, t'as vraiment envie d'y aller. Sauf que moi, c'est... Comme quand je vais voir un film, j'aime pas regarder la bande-annonce. J'adore, ouais. Tu vois, ce truc de sauter dans le vide sans savoir. Pas forcément très intelligent, globalement. Mais j'aime bien y aller sans savoir. J'aime pas me faire spoiler, quoi. J'aime bien ressentir la sensation, l'émerveillement et tout ça. Donc, je l'ai eu. Mais du coup, t'as le côté émerveillement, mais t'as aussi nécessairement des choses où t'es un peu désappointé.
Ah, bah déjà, tu vois des zigounettes dès que t'arrives.
Oui, c'est pas un problème, chacun. Tu vois, au contraire, c'est très très free, quoi. Ouais. Vraiment. Si t'y vas dans un état d'esprit fermé, va pas là-bas, quoi, tu vois.
Ouais.
Clairement. Non, c'était pas du tout ça. J'ai vraiment été amazed, comme ils disent là-bas, parce que déjà, c'est un univers. Il y a une map qui a été créée exprès pour ça, qui ressemble à un demi-cadran et qui est. Donc c'est des allées qui sont des lettres et qui sont quadrillées par des heures. Donc vraiment déjà tu dois mettre du temps à comprendre, ouais. À faire un reset pour comprendre ce fonctionnement et te dire alors nous notre camp il est à 9h15 t'étais là what et t'as un plan avec un demi-cercle quoi tu vois ouais. Tu comprends rien et donc c'est quand même très ritualisé c'est... Honnêtement, le concept est charmé, tu vois. Et puis le lieu est incroyable. Et il y a quand même cette culture de Leave No Trace, vraiment. T'as tous ces camps qui sont rangés dans la partie du demi-cadran. Et ensuite, t'as la playa. Donc, t'as cette étendue de poussière à perte de vue. Et puis, t'as les montagnes de Black Rock, tu vois, en face. Et c'est là que tu as les installations artistiques, le man, etc. Et en fait, sur cette étendue-là, c'est extrêmement grand déjà. Comme tu disais, il y a 80 000 personnes qui sont là. Donc, ça fait vraiment beaucoup, beaucoup de gens. Par exemple, d'un point des extrémités, tu peux mettre 40 minutes en vélo. Tu vois, c'est vraiment grand.
Ah oui, d'accord.
Ah oui, et donc ouais, pour se déplacer, c'est en vélo alors le...
C'est en vélo, ouais. C'est tellement grand. Et puis surtout, il fait 40 degrés, quoi, c'est le désert. Donc, tu te déplaces majoritairement à vélo. Ah ouais, il fait extrêmement chaud. Mais ça, tu as tendance à l'oublier, tu vois, parce que tu es tellement dans un microcosme, tu es dans une mini-ville, du coup, tu dis, ah, faut que j'aille à tel endroit pour voir des potes qui jouent, etc., qui mixent. Tu prends ton vélo et là, tu bikes pendant 40 minutes, sauf qu'il est 2 heures de l'après-midi, tu es au milieu du désert, ma chérie. Alors oui, tu vas faire une installation. Eh ouais, mais t'oublies, mais t'es teubée. T'es dans le milieu du désert, t'es...
Bah oui.
Allô, t'es au milieu du désert, du Nevada, oui, prends pas ton vélo à 2h de l'après-midi. C'est ce que j'ai fait le premier jour. Voilà. Petite insolation de 2 jours. Ouais. Bah ouais. Mais bon, après, tu fais, oh, prends un Bloody Mary, let's go, c'est reparti.
Ah parce oui, voilà, que... mais est-ce que les gens, ils sont full des gommes tout le temps, ou alors comment ça se passe?
Ouais, alors, faut avoir un certain entraînement, parce ouais. que, comme je dis, t'es au milieu du désert, et en fait, tu t'enquilles. Donc déjà, il faut savoir que tu dois être autosuffisant. Ça, c'est vraiment le tout. Donc, tu pars avec tes galons d'eau pour te doucher et boire pour une semaine dans le désert. Donc, il faut que tu fasses attention. Tu bois jusqu'à 2-3 litres d'eau parfois quand il fait vraiment chaud. Et cette année, réchauffement climatique, probablement. Il a fait vraiment très chaud. Donc, ouais. Donc, tu es tout le temps avec ta gourde. C'est vraiment... Il y a quand même de la survie, quoi. Mmh. Tu es au milieu du désert. Ça fait 14 fois que je le dis, donc je pense qu'on a compris. Donc, tu es toujours avec ta gourde et ton vélo. Mais ce qui est assez magnifique, c'est que... t'es obligé de décorer ton vélo avec des lumières, quoi.
Ouais.
Mais c'est pas pour que ce soit joli, c'est parce que parce qu'à tout moment, tu croises un Pac-Man géant ou une pieuvre qui lance du feu comme ça, qui se meut. En fait, c'est des voitures qui sont complètement... c'est des chars, quoi.
Ouais.
C'est vraiment un peu... c'est une foire, quoi.
Carnaval, un peu.
C'est une foire. Et du coup, le soir où t'arrives, donc il faut savoir que tout le monde doit avoir son vélo avec des décorations lumineuses pour pas être écrasé par les églises qui bougent tout seul comme ça.
Ouais.
Ah oui, tu veux dire, pour que le Pac-Man puisse te repérer, parce que
ouais,
sinon...
parce qu'il y a déjà eu des accidents, des morts à cause de ça. Parce qu'en fait, il y a quand même des véhicules qui bougent, et au milieu du
désert,
yes,
du Nevada.
Du Nevada, bah tu vois pas, surtout la nuit. Et surtout quand il y a des dust storms. Dust storms.
Alors, ça m'a éclaté les oreilles. Ah oui, parce que donc parfois il y a du vent et tout, et
c'est pas il y a du vent, c'est qu'il y a des tempêtes.
Pour ça t'as des lunettes
de poussière.
Ah ouais.
C'est vraiment.
Ah oui, c'est Survivor, quoi.
C'est vraiment Survivor. Et du coup, ce premier soir, on arrive, donc on pédale avec nos petits vélos qui clignotent, et on arrive sur cette fameuse étendue qui s'appelle la Playa.
Oui.
Et là, des centaines de vélos qui clignotent partout.
Wow.
Dans le désert.
Mais genre, ils roulent en même temps?
Ouais, ouais.
Oh là là.
Et c'est incroyable. Vraiment, ça coupe le souffle et c'est magnifique, quoi. C'est magnifique, et puis c'est des vélos, donc ça va.
Il y a quoi? Il y a des concerts? Est-ce que tu vis de troc? C'est quoi les trucs? Est-ce qu'on t'a essayé de te faire tester les drogues les plus folles du monde? Est-ce qu'il y a une tente du cul? Est-ce que moi, c'est des trucs qu'on m'a parlé. C'est quoi les trucs un peu fous qu'il n'y a pas dans la vraie vie, quoi?
Puis en plus, je crois que tous les gens qui font le Burning Man ne voient pas les mêmes choses.
Ouais, et donc c'est tellement grand.
Chaque témoignage va avoir... sa folie et tout.
C'est clair. Bon, en tout cas, moi, je cherche toujours le chaman qui devait me faire trouver mon animal totem. Ce bâtard, j'ai jamais trouvé. Non, c'est marrant parce que du coup, t'as un planning, enfin, t'as un programme, et tu choisis un petit peu ce que tu veux, et du coup, tu dois trouver l'endroit où c'est.
Ouais.
Mais c'est vrai que des fois, t'y vas, et il y en a qui se sont perdus, qui se sont jamais retrouvés, et du coup, t'y vas, il n'y a rien, quoi.
Ah merde.
T'as un peu le seum, quoi. Mais c'est où? Je croyais qu'il y avait des ramen ici.
Il n'y a pas un système où tu dois participer à la collectivité du groupe et donc faire
des cadeaux et tout.
Donner
alors,
à manger
ouais. Dans place. Donc, en fait, le système, c'est que il n'y a pas d'argent sur place. Tu as des camps qui sont organisés et qui offrent à chaque moment de la journée quelque chose qu'ils font. Ça peut être des gaufres, ça peut être des margaritas, ça peut être, je ne sais pas, une conférence sur quelque chose.
Des Scooby-Doo.
Des talks. Généralement, il faut que ce soit utile parce que tu rapportes tes déchets. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui est important. Donc, tu essayes d'avoir le moins de choses possible. Et surtout, comme tu es dans un milieu où tu es censé survivre, ça va être plutôt de l'eau. Enfin, moi, personnellement, ce que j'ai cherché le plus, malgré le fait que j'avais ma gourde tout le temps, c'est de l'eau parce que tu es tout le temps en vélo, tu passes la journée sur le vélo. Donc, tu es tout le temps en train de pédaler et tout, sous une très, très, très forte chaleur, sur un ancien lac alcalin. Donc, t'es très vite déshydraté et desséché. Et donc, le premier truc, c'est de l'eau, quoi.
Putain, ça donne pas très envie, hein, quand tu le racontes. Hein.
Non, mais c'est vraiment une expérience super intéressante. Après, moi, j'ai vécu des trucs... comment dire? Sans passer pour une connasse. Non, moi, j'ai vécu des trucs, je me suis mise dans des situations extrêmes ou de survie ou d'aventure. Sans avoir à mobiliser une fausse ville, sans avoir à payer énormément, tu vois, dépenser de l'argent.
J'ai eu ce genre de sensation dans
voilà.
Tout voyage.
J'ai pas besoin de ça pour ressentir des émotions fortes. Et même si je trouve que le concept initial est intéressant, je trouve qu'aujourd'hui, ça me semble un peu galvaudé. Et le pendant négatif de tout ça, c'est l'impact écologique que ça a. Et j'avais pas... connaissance de ça.
Ouais.
Et c'est vrai que ça a été un peu une claque et que il y a ce truc où tu te retrouves un peu à huis clos dans quelque chose auquel tu peux pas échapper et parfois t'as un peu honte de te retrouver là-dedans, quoi.
Ça n'a pas été life changer comme on l'entend dans d'autres trucs. Où...
Après, t'as vu, elle a monté des chevaux sauvages. Bien
sûr, oui, mais c'est hyper intéressant.
Ouais, mais peut-être pour quelqu'un qui a fait, qui va, genre, je sais pas, économiser vachement pour aller au Burning Man et que ça va être un peu son truc dans sa vie et tout. Peut-être que ça fait beaucoup plus de sensations que quelqu'un qui a peut-être un peu plus l'habitude, tu vois, de faire des voyages.
T'as déjà une vie d'aventure et déjà une vie où tu te mets en danger, où tu fais des trucs, et là, ça t'a pas dépaysé de.
Non. Et en fait, malheureusement, il y a quelque chose. Le problème, c'est que c'est assez compliqué d'y avoir accès et tout ça. Donc, tu rentres dans une communauté qui est très, très bienveillante. Il y a vraiment plein de choses positives là-dedans. Donc, c'est compliqué d'avoir un rapport critique, tu vois. Ouais. Malheureusement, si tu es authentique et que. Voilà, je veux dire. Moi, je ne peux pas être dans un rapport hypocrite par rapport à ça. Et il y a un moment donné où moi, j'ai envie de défendre des valeurs qui... Il y a un manque de cohérence. En fait, tu ne peux pas essayer d'être dans une évolution et d'être dans un... Comment dire ? Pas un combat, mais une volonté de changement des mentalités au niveau du climat et de notre comportement à tous. Et en même temps, te retrouver au milieu du désert avec des centaines de Harvey qui mettent le contact pour la clim, quoi.
Ouais.
Moi, je suis désolée, je me suis retrouvée dans des situations où vraiment j'étais à deux doigts de la crise d'angoisse parce que je supporte pas qu'il y ait un connard sur un parking qui laisse sa voiture allumée 2 secondes pour aller faire des courses. Quand t'as un mec à côté qui te réveille parce qu'il allume son contact pour mettre de la clim alors que t'es au milieu du désert, mon gars, j'ai envie de te mettre une baffe, quoi. Et je me dis, je peux pas participer consciemment à ça. Et je savais pas. Moi, j'y étais en voiture parce qu'il faut bien y aller à un moment donné. Voilà. Ouais. Ma voiture, elle a pas été allumée une seule seconde en une semaine. Ça a été un abri. Tu vois.
Ouais, c'est un peu absurde de faire genre on s'engage sur le climat et
c'est une incohérence totale.
C'est ce que j'avais lu en préparant le quiz, c'est que effectivement en plus de ça, donc il y a des milliardaires qui viennent en jet, enfin tu vois, c'est un peu tu te dis bon
c'est jackpot là, s'il y a un jet qui arrive.
Ouais, mais non, mais il y a des images du vue de prise du ciel, tu vois, du Burning Man, où tu vois le parking avec les milliers évidemment de véhicules, plus qui en plus font des bouchons pour arriver, donc ça pollue beaucoup, et les jets machin, et dans les trucs polluants, t'as évidemment plein de gens autour du monde qui viennent, qui prennent l'avion pour faire le Burning Man. Ce que j'avais lu, c'est que les organisateurs disent, enfin, pour éviter que ce soit trop polluant, ils préconisent le covoiturage. Mais bon, c'est un peu léger quand même comme, comme suggestion. Et un Américain qui va au Burning Man a un bilan carbone deux fois supérieur à un Américain moyen aux États-Unis, quoi. Il double, juste aller au Burning Man 9 jours, il double son impact écologique dans l'année. Voilà.
Attends, mais c'est quelque chose qui...
Et bisous les burners.
Non, mais honnêtement, mais surtout que c'est pas forcément quelque chose quand t'essaies de pas trop te renseigner sur le truc pour avoir la surprise et tout. Ah oui, j'ai eu la belle surprise, j'étais bien contente. Et
à la fin, ils font cramer du bois, quoi. Donc ils vont à fond dans le bois.
C'est ultra américain, ça part en bombardement et tout. T'as des trucs qui explosent dans tous les sens. Mais vraiment, c'est vrai qu'il y a un truc où... Ouais, t'as un peu honte, quoi.
Autant se faire un bon voyage à Marbella, prendre une bonne villa.
Non, mais tu vois, t'as pas besoin de... Enfin... Donc voilà, je me suis dit, on va parler de ça, c'est compliqué. C'est vrai que c'est compliqué parce que tu t'es accueilli par plein de gens qui sont super enthousiastes et donc t'as pas envie de casser du sucre sur le dos de ces personnes-là ou quoi que ce soit, tu vois. Donc il y a un truc qui est chambé, mais c'est vrai qu'il faut, il faut changer ça, quoi. C'est pas possible, t'as pas besoin... Le concept initial, c'était ils sont partis dans ce désert pour pas emmerder les gens, tu vois. Ouais. Et ils étaient vraiment dans un rapport très simple, quoi. C'est vrai qu'aujourd'hui, t'as vraiment des campements. Et puis, c'est les gens qui sont donc des gens très riches qui débarquent en jeep avec des Harvey, des dizaines de Harvey et tout. Il y a clim dedans. Et t'es là, mais c'est pas possible, quoi. Et tu sais pas. Franchement, je savais pas que c'était comme ça. Et puis, genre... Par exemple, donc t'es là, t'es vraiment à fond dans ton truc. Toi, t'es avec ton petit vélo, t'as ta petite gourde d'eau et tout. Et t'es là, et d'un coup, t'as deux storms et tout. Donc, t'as la tempête de sable qui arrive. Donc, t'es là, t'es en train de lutter et tout. Et c'est intéressant, tu vois. Et donc, vite, tu rentres dans une tente et tout. Tu rentres dans une tente et là, c'est Ibiza. Il y a la clim.
Il y a une boîte de nuit.
Il y a un bar.
Il y a un casino, un cinoche.
Et là, moi, je déchante, quoi. Je dis, c'est une blague, c'est pas possible. Donc ah évidemment, ouais. Tu peux pas sortir parce qu'il y a la deux storm dehors et puis il fait vraiment chaud. Donc t'es là, donc ah ouais, tu vas cocktail et tout. Hi, how are you? T'as plein de gens qui sont sursapés. Et alors moi j'adore les déguisements. C'était mon kiff de me dire ah, je vais me prendre des déguisements et tout. J'en mets. Mais c'est absurde. Je peux pas cautionner ça. Et en fait, j'essaie d'en parler autour de moi parce que j'étais vraiment choquée. Jamais. Enfin, vous vous rendez compte là que c'est pas possible en fait? Et les gens, ils s'en rendent pas compte.
Ouais, ils captent pas.
Il y a une seule sortie, une seule entrée. Il y a 80 000 personnes qui veulent partir en même temps.
Avec les, avec le, ouais. Les voilà. Bagnoles à fond qui font la queue.
Ouais.
Voilà, avec le
donc
petit
en
bouchon.
Fait, t'as deux choix. Donc t'es au milieu de ce truc à la con de la queue, quoi, tu vois. T'as vraiment envie de te mettre une gifle, voire deux, parce que tu dis franchement, c'est pas possible de pas avoir pris conscience de ça avant, tu vois. Donc tu t'en veux, t'as méga honte d'être là. Et tu te dis, j'éteins mon moteur, je meurs. Ouais. Je suis au milieu du désert. Ouais. Et là, il y a plusieurs heures d'immobilité. Quoi. Ouais. Donc, tu as juste envie de chialer, honnêtement. Tu es là en mode... Et tu essaies d'en discuter. On s'en branle, quoi.
Putain, c'est chaud.
C'est chaud. Et c'est chaud, ceux qui retournent. Parce ouais, que c'est... tu peux te dire, OK, machin, one life... Tu as expérience et oui, tout. Et, genre, fois, ouais. Et puis, et tu prends conscience. Et tout. Mais waouh, on n'est pas. C'est fini les années d'impunité et tout. Ouais, ouais moi je suis ultra, ultra, ultra émue parce que j'ai un peu l'impression d'avoir été trapped, tu vois.
Ouais.
Mais c'est horrible parce que j'ai pas envie de donner un truc négatif sur quelque chose qui globalement est bienveillant et j'ai été super bien accueillie et tout, mais ouais, les gars, wake up quoi, il y a un moment donné faut avancer, c'est... Ouais. Et puis tu vois il y a ce truc où donc j'essaie de lire un peu pour essayer de sortir de ce truc super angoissant, dire ouais, j'ai méga honte d'avoir participé à ça et c'est pas mes valeurs, c'est pas ce que j'ai envie de véhiculer et tout. Et puis derrière, donc j'essayais de lire un petit peu des trucs à ce sujet-là. Donc c'est vrai que tu as beaucoup de gens de la Silicon Valley qui viennent, qui amènent... En fait, c'est méga négatif, je sens ça tellement négativement. Mais genre, ils viennent, ils amènent un peu leurs employés et tout, parce qu'il faut savoir qu'il y a une énorme communauté de bénévoles. Il y a plus de gens bénévoles que de gens employés et qui travaillent 80 heures par semaine dans des conditions ultra hostiles bénévolement. Donc ouais. En fait, c'est un cas d'étude pour se dire comment est-ce qu'on peut faire en sorte que nos employés passent pareil. Donc en fait, t'es là en mode « Ah, c'est trop bien, c'est team building et tout ». Non, en fait, c'est gros enfoiré, tu vois. Mais j'avais entendu un truc qui était plutôt intéressant. C'était un peu d'un seul truc positif que j'ai pu retirer de ça. C'était que l'organisation du Burning Man invite des maires à travers le pays et les initie un petit peu à comment est-ce qu'ils peuvent engager leurs citoyens à être davantage engagés écologiquement, à leave no trace, etc. C'est tellement paradoxal, mais bon. Parce qu'effectivement, on est tous ultra engagés à quand on part, bah, le côté MOOP et tout, on retire tout. Enfin, normalement, tout le monde fait ça, mais c'est vrai que nous, on a passé plusieurs heures à démonter tous les trucs. Démonter tout le camp aussi, en fait. Les deux derniers jours, tu démontes le camp, donc en pleine chaleur, tu vois. Donc, moi, ça a été un de mes meilleurs moments, personnellement.
Ouais. Arrangement.
Et bzzz, t'es là, tu démontes tout et tout, c'est trop bien. Voilà, est-ce que j'ai cassé ton rêve, Maxime ?
Bah, non, t'as pas cassé mon rêve parce que j'avais déjà entendu que c'était mieux avant.
Je sais pas si c'était mieux avant, j'y étais pas, tu vois, mais. C'est juste que ça va pas dans le bon sens.
Ouais, ouais, c'est pas cohérent, quoi. Je comprends bien, mais après, on peut faire le Burning Man dans un jardin en Ardèche, ouais.
Voilà. Exactement.
Ça va, hein.
On a un petit moment anecdote. Est-ce que tu en aurais une là ? T'es en auberge de jeunesse, bam, c'est ta best.
Un de mes rêves, c'était d'aller en Alaska. Et du coup, avec mon compagnon de l'époque, on est parti à peu près un mois en Alaska en sac à dos. Et on est allé au point le plus haut de l'Alaska. Donc, l'Alaska déjà s'appelle The Last Frontier. Et on est allé au point le plus haut avant la banquise. Donc, le dernier bout de terre, quoi. Donc le village s'appelle Barrow et on y allait, bon, comme d'hab quoi, comme ça. Alors on voit pas et je viens de déglinguer le micro, mais en gros c'est à l'aveugle. Ouais, exactement. Ce qui est franchement pas malin, sauf que bon, on sait quand même qu'il y a des ours blancs quoi sur la banquise.
Oh my god. N'importe quoi.
Ouais, et du coup c'est super intéressant parce que donc il faut savoir qu'il y a une partie d'Alaska où il y a un réseau routier et une autre partie d'Alaska où il n'y a pas du tout de route. Donc, c'est vraiment into the wild, quoi. Il n'y a pas d'autre moyen que d'être à pied ou d'être en avion. À un niveau empreinte carbone, on est bien quand même.
Hein. Bah oui, là, il va falloir que tu plantes des arbres, je crois.
Mais j'en plante, Maxime.
Ben, j'espère bien.
Je plante des salades.
Tu plantes des salades? Bon, bah, non. C'est bon. On est sauvés.
J'en ai planté.
Ok.
Et donc, pour aller à cet endroit, il faut prendre un avion. Et ce qui est assez intéressant pour réduire l'empreinte carbone, c'est que c'est des sortes de charters, en fait. C'est des avions stop, qui font des stops.
Okay.
Donc, tu prends l'avion.
Ah, prends et tu t'atterris, tu redémarres, tu réatterris, ouais. Et tu restes dans l'avion tant que t'es pas à ton stop.
Ouais.
Ah yes, c'est Burning Man style, j'ai l'impression, ça. Hein.
Mais non, mais c'est pour délivrer la nourriture à des personnes qui n'ont pas forcément
Ils n'ont pas le choix, ils n'ont pas le choix. Oui, oui, non, bien sûr. Allez, c'est validé.
Et donc, on arrive à cet endroit-là. Donc, on était juste en tente hein, et vraiment broke as fuck, genre vraiment pas du tout d'argent. Donc, le seul hôtel qu'il y a dans cet endroit coûte super cher et surtout, il faut booker super longtemps à l'avance, quoi. Et donc, on s'est dit, bon, ça va, on fera du wild camping, on a l'habitude, on dormira sur la plage, on verra. De toute façon, c'était au mois de juillet et il fait quasiment, enfin, il fait clairement pas nuit, il fait jamais nuit là-bas, enfin, à ce moment-là.
Oui.
Il fait pas froid non plus, quoi, donc ça va. Donc, on arrive dans ce tout petit aéroport, je m'en souviendrai toujours, en plus, on avait des donuts, tu vois, c'est vraiment genre l'Amérique. Du coup, j'essaie souvent de demander, en tout cas, aux locaux et j'avais rencontré un monsieur dans un bus. Vraiment l'Alaskan, tu vois, avec les cheveux blancs et tout, assez âgé. Et donc, je dirais,
avec
lui,
de la neige sur les épaules et tout, le vrai Alaskaïen.
Lui, il a le savoir, quoi, ah, tu vois. Ouais, écoute, on coupera aussi, hein Max.
Alaskaïen.
Et du coup, je lui demande, je dis oui, pour les grizzlies, parce que c'est quand même bear country, tu vois, genre plein d'ours là-bas et des grizzlies, donc c'est pas les plus gentils. Les grizzlies et tout, c'est quoi votre conseil quand on fait du wild camping, quoi? Et il m'avait regardé comme ça, il m'avait dit stay high. Et c'était génial, et c'est le meilleur conseil de ma vie. Tous ceux qui veulent aller en nature, oui. Stay high, c'est rester le plus haut possible, parce que plus tu vas haut, moins t'as de végétation, et du coup, moins t'as d'animaux. Donc t'as moins de risques de croiser, et surtout t'as une meilleure visibilité. C'est pas du tout l'histoire que je voulais raconter, on est d'accord.
Ok, mais on a quand même ce petit
mais
conseil.
Mais il y a ça.
Oui, c'est bien, les petits conseils, c'est bien.
Qui ne fonctionne pas du tout parce que quand tu arrives à Barrow, c'est plat. Donc, on ne pouvait pas stay high. Et donc, moi, j'arrive et je demande un petit peu des conseils aux locaux dans l'aéroport en me disant, je vais un peu prendre ma température parce que quand même, bon, il y a des ours polaires, tu vois, c'est pas... Ils sont cannibales, quoi. Enfin, cannibales. Non, ce n'est pas cannibales, ils mangent des humains, quoi. Ils sont pas... On va l'enlever ça.
Attendez,
ils sont pas végétariens.
Ils sont carnivores.
Ils sont carnivores, merci.
Ou comment on dit quand ils mangent que de la viande? Les lions, ils sont... Oui, carnivores. Et nous, on est omnivores, voilà, c'est ça.
Ouais, merci Marie.
Les ours cannibales.
Les ours cannibaux, du coup, non?
Ouais.
Les ours à l'Alaskaïen cannibaux.
Alaskaïen.
Putain, ce jet lag, là, je pensais pas... Ça pouvait faire cet effet. Hein.
C'est naturel. Tu disais, mon animal totem, ce serait...
Bah, l'ours, sûrement. C'est pour ça que tu disais que tu avais peur qu'il te mange, parce que peut-être, dans ta tête, t'es une ours.
Et du coup, t'es cannibale. Bah, il serait...
Wow.
Bah oui. Moi, je suis allé au bout du truc.
Tu crois que je suis un ours?
Un peu,
en vrai, ouais. Putain, mais c'était toi, le chaman du Burning Man.
Exactement.
Mais quelle ours, parce qu'il y a plein d'ours. Qui mange du miel dans les...
Celui, il faut pas trop s'approcher, sinon ça sort les griffes et...
Bah, tu sais, parce que moi, je pense que je suis un panda qui est, pour le coup, très facile d'approche.
Ouais.
Tu sais pourquoi?
Ouais, non.
Parce qu'il fait que de bouffer, il roule et il nique une fois par an.
Eh bah, ça, c'est Marie, ça.
Mais c'est trop mignon aussi.
Et en plus, c'est cute, hein.
Panda et ours, ça va bien ensemble, non?
Bah ouais,
c'est un peu la même team.
C'est un peu la même team d'animaux.
Putain, je crois que j'ai trouvé mon animal totem, Max.
Voilà. Je t'offrirai un petit poisson là en sortant, un petit saumon, et puis je te le jetterai comme ça.
Allez, mais est-ce que ça marche à un ours végétarien?
Ah, mais toi t'es végétarienne? Ah ouais, mais tu... Ouais, mais bon, bah écoute,
c'est un peu contre
nature. Tu vas devenir pesquitarienne. C'est ta...
C'est que du poisson.
Tu manges que des poissons. On part trop en couille, là, n'importe quoi.
Il va falloir que t'ailles au bout, là.
Alors moi, je veux voir le grizzly, je veux l'attaque de ton congénère.
Bah, dis-toi que je pense qu'il avait le pif, il a senti, il m'a jamais attaqué. Mais c'était pas ça l'histoire que je voulais raconter.
Ah non, pardon.
Et du coup, je demande à l'aéroport, c'est OK de faire du wild camping? Et là...
Camping sauvage.
Ouais. La tête de la meuf à l'aéroport, j'ai compris que c'était pas OK. Sauf qu'on n'avait pas le choix et que la nuit allait tomber. C'est-à-dire qu'il allait pas faire
c'était
nuit. Mais c'était, voilà. On est en fin d'après-midi. Donc là, panique à bord, tout le monde qui se regroupe autour de nous, parce qu'il faut savoir que t'as un mini piste, enfin un mini truc de livraison de bagages qui doit faire genre 3 mètres, et que ça doit faire 30 mètres carrés l'aéroport, quoi. Vraiment, c'est, ouais. Et c'est que du, comment on appelle ça, du préfabriqué, quoi. Tu vois, il y a que ça là-bas. C'est vraiment des c'est désertique, mais boueux, avec de la neige et du préfabriqué, que ça. Et des gens en quad. C'est déjà, c'est super cher. Genre, la brique de lait, elle est à 20 dollars. Il y a juste un mini supermarché avec 3 rayons dedans. Et c'est très cher. Et en fait, comme c'est des populations esquimaux, c'est des personnes qui ont été colonisées, disons. Et il y a, comme compensation, le gouvernement américain leur donne une sorte de pension qui leur permet aussi de survivre là-bas. Et voilà. On comprend que c'est galère, tout le monde qui se regroupe et qui nous dit « mais vous ne pouvez pas en fait dormir ici parce que vous allez vous faire manger par les ours polaires ». Il faut savoir que dans cet endroit, il y a une alerte. Quand il y a un ours polaire qui arrive, il y a une sirène.
Ouais.
Tout le monde doit rentrer dans un endroit. Donc nous, on n'a pas d'endroit solide qui fait qu'on ne peut pas se protéger des attaques d'ours polaires. Et que là, on parlait déjà un petit peu de réchauffement climatique, il y avait la banquise qui font de plus en plus, ouais. Et que les ours polaires sont capables de te sentir à très longue distance, plusieurs centaines de kilomètres, jusqu'à 200 kilomètres à peu près, ou alors ils peuvent nager 200 kilomètres, mais ils te sentent aussi. Enfin, c'est vraiment quelque chose de gigantesque, quoi. Ils te sentent et leur but, c'est de te bouffer. Donc, ils traversent une partie de l'eau pour te bouffer sur la terre. Donc, ils ne déconnent pas, en fait. Quand ils viennent, ils te bouffent.
Oh,
donc, dormir sur la plage.
Mais oui, bonne idée, ça.
It's a no. Donc là, on se dit, OK, on vient de faire des heures de voyage en charter, en avion. Il n'y a aucune route qui mène ici. Et il n'y a aucun moyen de dormir autrement qu'en tente. Comment on fait? Donc là, les gens commencent à réfléchir autour de nous et tout. Et il y a un monsieur qui arrive et qui nous dit, il y a peut-être quelque chose que vous pouvez faire pour survivre. On écoute avec nos deux têtes de gland. Là. Et il dit, oui, c'est arrivé une fois qu'il y ait des voyageurs comme vous qui viennent jusqu'ici et qui avaient juste une tente, comme les deux gros teubés que vous êtes. Et,
on ne les a jamais revus.
Ils ont été accueillis par un pasteur.
Ah.
Parce qu'il faut savoir, et c'est pour ça que je dis, c'est vraiment l'Amérique, c'est que ça a été évangélisé en quelque sorte. Okay. Donc oui, il y a eu beaucoup de personnes qui ont été... là-bas pour développer la paroi et prêcher la bonne parole, etc. Donc il y a quand même une communauté chrétienne qui est assez présente. Et du coup, il y a beaucoup d'églises dans ce village. Donc on nous a conseillé d'aller voir ce pasteur et de lui demander s'il pouvait nous offrir le gîte pour la nuit et pas se faire croquer par un ours polaire. Et donc on est arrivé là-bas devant l'église et il n'y avait personne. Il y avait juste des enfants, donc on a commencé à faire un peu de guitare. Puis du coup, les enfants commencent à se venir autour de nous, à chanter, à jouer, etc. Et là, il y a Bruce Willis, ma gueule, qui débarque. Un mec, on était quand même en Alaska, même si c'était l'été, il faisait quand même pas super chaud non plus, qui débarque en genre truc de sport Nike, en méga stock, rasé.
Oh, putain.
C'était le pasteur.
Allez.
Petit jean moulant. Hop, il arrive et tout, il commence à nous parler et dire « vous êtes qui ?» et tout. Mais comme on était avec les enfants, qu'on jouait de la musique, ça passait, tu vois.
Ouais.
Et donc on fait « vous êtes le pasteur ?» Il me dit « oui » et tout. Justement, c'est vous qu'on vient voir. Ok, chelou. Et donc on lui explique qu'on ne savait pas pour les ours polaires. Tu es débile, quoi. Et qu'on a juste une tente et qu'on a entendu parler que peut-être il pourrait nous donner le gîte. Et donc, au début, il dit écoutez, je sais pas, il faut voir. Venez, ça va être le goûter des enfants, venez. Et donc, en fait, c'était une sorte de messe. De cours de catholicisme, un truc comme ça.
Ouais, catéchisme, mais version protestante, du coup.
Ouais, c'est un courant. Il me semble que c'est un courant protestant. Et donc, on arrive et donc, ils nous avaient fait les goûters pour les enfants. Donc, c'est beurre de cacahuète et confiture.
Oui, ouais.
Tranquille. Et d'ailleurs, c'est excellent. Vraiment très bon. Et donc, on a suivi le cours avec les enfants et tout. Et à la fin de ça, on a vraiment participé à la collectivité. Et à la fin de ça, il nous a dit « Ok, vous pouvez rester là pour la nuit ». Donc, on a passé la nuit dans une église et on a fait un feu sur la plage avec tout le monde. On a joué au volley avec les locaux. C'était un soleil de minuit quand même.
Ah heureusement que le pasteur était là.
C'est comme dans les films, tu sais. Ouais. Tu sais, dans les films apocalyptiques, ouais. On te dit ouais. Faut aller prendre refuge dans l'église.
Ouais.
Allez voir Père Michel.
Eh ben merci Lily pour toutes ces incroyables anecdotes. Mais avant de te laisser aller planter quelques arbres pour ton empreinte carbone, je voudrais quand même savoir quelle est ta bucket list, des choses que tu n'as pas encore rêvé de faire, que tu rêves de faire dans ta vie.
Vous voulez encore me faire parler, vous
êtes... Non, mais non. Un truc
que tu veux trop faire que tu n'as jamais fait.
Ok. J'ai vraiment une nouvelle lubie. Enfin, j'ai toujours eu un peu ça. Je suis assez fan de documentaires de sport extrême et j'aimerais vraiment avancer doucement vers l'alpinisme.
Ah.
Oh, putain.
Ouais. Je sais pas si j'arriverai un jour, mais...
Très bien, c'est parfait. Comme ça, tu continues de te mettre en danger comme il faut, quoi. J'espère que le pasteur sera pas loin.
Petite église dans les montagnes.
Eh bien, écoute, merci beaucoup d'avoir accepté de venir nous raconter tes aventures. Merci, Marie, pour tout ce savoir. Merci pour ces anecdotes incroyables. Merci aux touristos, aux touristas de vous abonner au compte Instagram, de nous laisser des commentaires, des 5 étoiles sur Spotify, Apple Podcasts, partout. Ça nous fait grandir, ça nous aide beaucoup. Merci beaucoup. Et je vous dis... À très vite pour de nouvelles aventures.
Merci.